You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce mardi en Australie, le Labour s'est engagé à dépenser 1 milliard de dollars s'il gagne les élections fédérales pour la production d'hydrogène propre à partir d'énergies renouvelables. Le Brexit et la première ministre britannique Theresa May a déclaré qu'elle tenterait de trouver une solution en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'Union européenne. Le Parti travailliste s'est engagé à dépenser 1 milliard de dollars pour stimuler le secteur des énergies renouvelables en Australie s'il remportait les élections de cette année. Le financement ira à la Clean Energy Finance Corporation pour soutenir le développement de l'hydrogène propre. Selon le Parti travailliste, le secteur de l'hydrogène pourrait représenter une industrie d'une valeur de 10 milliards de dollars dans 20 ans et créer 16 000 nouveaux emplois dans les régions rurales du pays. Le plan comprend également la création d'un centre national d'innovation pour l'hydrogène à Gladstone, à environ 550 km au nord de Brisbane. Les équipes de pompiers en Tasmanie continuent à se battre contre des feux de brousse. Deux avertissements ont été mis en vigueur hier soir pour les incendies qui brûlent sur le plateau central et la région du sud-ouest. 40 personnes ont été évacués de la petite ville de Miena. Les pompiers néo-zélandais devraient se joindre à des équipes australiennes aujourd'hui mardi pour lutter contre les incendies dans tout l'État. Simon McCulloch est du bureau de la météo.
But if that change doesn't happen until the afternoon, we could be pushing up into the mid to high 30s in some places. So from the Weather Bureau's point of view, Friday looks to be probably the most significant fire day we've had this season.
Une nouvelle campagne lancée par des organisations de santé et des organisations communautaires fait appel au public de prendre en compte les dommages aux dents des personnes causés par les boissons sucrées. La campagne Thirsty se concentre sur les images graphiques des dommages causés par les boissons sucrées. Des études montrent que les garçons et les hommes âgés de 12 à 24 ans boivent jusqu'à 1 litre de boissons sucrées chaque jour. Un ancien conseiller de l'ancien Premier ministre, Malcolm Turnbull, aurait l'intention de se présenter contre Tony Abbott lors des prochaines élections fédérales. Selon le Sydney Morning Herald, Alice Thompson annoncera sa candidature comme candidate indépendante pour le siège de Warringah à Sydney. Le corps de l'étudiante palestinienne assassinée, Aya Massaway, a été remis à sa famille pour les funérailles qui auront lieu en Israël. Saïd Massaoui, le père d'Aya, explique que le soutien que sa famille a reçu de la part de la communauté australienne lui donne de l'espoir pour l'avenir.
Let you to feel can have better future for our child and for the another generation. This is our job and this is the message what we want to send. We want to make the world is more peace and more safety, and more beautiful, and more smile, and more forgive each other, and more accept the another also.
Le Brexit et la première ministre britannique Theresa May a déclaré hier qu'elle tenterait de trouver une solution en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'Union européenne. On écoute maintenant l'analyse de Muriel Delcroix depuis Londres pour Radio France Internationale.
Le plan B de Theresa May est de continuer avec son plan A. La première ministre est venue redire qu'elle rejetait l'idée d'un second référendum, qu'elle ne révoquerait ni ne prolongerait l'article 50, qu'elle refusait d'exclure un no deal et que donc la menace d'une sortie sans accord restait d'actualité. Enfin, qu'elle continuerait à tenter de modifier la clause de backstop, le filet de sécurité prévu pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Bref, aucun changement notable. Theresa May a eu beau répéter qu'elle allait assouplir sa position, elle n'a abandonné aucune de ses lignes rouges et doit retourner à Bruxelles évoquer la question du backstop, ce qu'elle avait déjà fait entre décembre et janvier, sans obtenir aucune concession de la part des 27. Cette attitude n'a fait qu'accroître la frustration des parlementaires. Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition travailliste, a accusé la dirigeante d'être dans le déni total et de s'accrocher à un plan qui était irréalisable, tandis que d'autres parlementaires demandent désormais avec de plus en plus d'insistance à pouvoir organiser une série de votes indicatifs pour tenter de dégager un consensus avant la motion du gouvernement qui doit être débattue le 29 janvier prochain.
Le 22 janvier 1963, scellait la réconciliation franco-allemande et ce mardi 22 janvier, un nouveau texte sera signé à Aix-la-Chapelle, ville symbole de l'Europe où Charlemagne fut couronné. Comment est perçu ce nouveau traité en Allemagne ? Reportage de Pascal Thibault pour RFI.
Les médias allemands font la fine bouche. D'un côté, ils sont nombreux à estimer que Berlin a trop tardé à répondre au projet européen d'Emmanuel Macron et reste timoré. Mais pour les commentateurs, le nouveau traité aurait pu et dû justement compenser par son ambition ses réticences allemandes. Plus de passion, demande ainsi le quotidien Süddeutsche Zeitung. Dans les milieux officiels, on vante au contraire le nouveau texte. Aujourd'hui, la chancelière évoque une nouvelle étape. Elle a consacré au traité d'Aix-la-Chapelle, qu'elle signera demain avec Emmanuel Macron, son podcast vidéo hebdomadaire.
Le traité de l'Élysée nous a permis de faire de grands progrès, mais le monde a changé. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il nous fallait un nouveau traité qui vient compléter le précédent. Nous parlons par exemple beaucoup plus aujourd'hui de notre coopération en faveur de l'intégration européenne.
Diese Dimension war in dem alten Vertrag noch nicht so ausgearbeitet.
À Berlin, où les envolées lyriques et les symboles ne sont pas la priorité, on parle d'un traité de travail, d'une caisse à outils pour une politique concrète, mais aussi d'un geste fort contre la désintégration de l'Europe et pour le multilatéralisme.
La tension entre Israël et la Syrie. Dans un communiqué, l'armée israélienne souligne que l'Iran, je cite, s'enracine en Syrie. Il y a eu 11 morts après une intervention de l'armée de l'air de Sahel en Syrie. Michel Paul pour RFI nous explique ces dernières nouvelles.
Ceux qui menacent de nous détruire en porteront l'entière responsabilité. C'est la première réaction du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On peut dire que l'escalade militaire se poursuit donc à la frontière nord d'Israël et dans le ciel de la Syrie. Deux frappes israéliennes en moins de 24 heures, un missile sol-sol tiré depuis la Syrie et intercepté par le système Dôme de fer. Pour le porte-parole de l'armée israélienne, l'engin a été tiré par la force iranienne Al-Quds, opérant en Syrie. La riposte n'a pas tardé, l'aviation israélienne a ciblé des positions iraniennes en Syrie. C'est probablement le raid israélien de plus grande envergure ces dernières années. Et parmi les objectifs visés, selon l'armée israélienne, des hangars de munitions, un site situé sur l'aéroport international de Damas, un site de renseignement iranien et un camp d'entraînement. Dans un communiqué, l'armée israélienne souligne que l'Iran offre une preuve irréfutable de ses intentions réelles de s'enraciner en Syrie. Pour les Israéliens, il s'agit d'une menace directe qu'ils n'arrivent pas à contrer, a remarqué le changement de politique des Israéliens qui parlent désormais ouvertement de leurs opérations en Syrie et la question que les médias se posent ici, dans quelle mesure les frappes israéliennes ont reçu le feu vert de la Russie.
Une voiture piégée a explosé dans un complexe militaire du centre de l'Afghanistan qui aurait tué au moins 120 membres des forces de sécurité. Les talibans ont revendiqué l'attaque. Le pouvoir et la portée des talibans ont augmenté depuis que des troupes étrangères ont quitté l'Afghanistan en 2014. Quelques soldats américains et australiens restent dans le pays pour aider à une formation et à une assistance aux forces afghanes. La République démocratique du Congo, avec la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi, qui aura lieu probablement ce jeudi, le camp de Martin Fayulu revendique toujours la victoire. Martin Fayulu avait prévu un meeting au siège du MLC, le mouvement de libération du Congo, mais le lieu de rassemblement a été quadrillé par la police. Reportage Patient Ligotti pour RFI.
Dès 9h du matin, plusieurs dizaines de policiers sont déployés aux alentours du siège provincial du mouvement de libération du Congo, le MLC. Le podium qui devrait être utilisé par Martin Fayulu est saisi par la police. Vers midi, la tension monte d'un cran, 4 militants sont brièvement interpellés. Quelques heures plus tard, le général Silvano Kasongo, chef de la police à Kinshasa, débarque.
Nous, on croyait que c'était en plein air. Mais si c'est dans l'enclos, il n'y a pas de problème. Mais en plein air, il faut avoir l'autorisation du gouverneur, de l'autorité urbaine. Maintenant, comme on sait que c'est à l'intérieur, voilà, nous avons enlevé les policiers, ils sont plus là, ils sont là-bas, nous sommes aux alentours.
Alors qu'ils tentent d'accéder au siège du mouvement des libérations du Congo, le MLC, Stanis Boujakera, journaliste du média en ligne actualité.cd, est brutalisé. Il s'en sort avec une blessure à la main.
L'officier qui était sur place a été interpellé, il est aux arrêts, il n'a pas compris cette brutalité.
Finalement, la police se retire. Le message qui devrait être délivré par Martin Fayoulou va finalement être donné par Eve Bazaïba, secrétaire général du MLC de Jean-Pierre Bemba.
Les preuves à notre disposition, nous avons gagné les élections et que les résultats publiés par la Cour constitutionnelle ne sont pas conformes à la vérité des urnes.
Entre-temps, Martin Fayoulou a fait une ronde dans quelques quartiers de Kinshasa, délivrant personnellement le même message.
En Chine, les autorités notent le taux de natalité le plus faible depuis 1949. Quels sont les enjeux ? Reportage de Stéphane Lagarde qui est à Pékin pour RFI.
Ce n'est plus un recul, c'est un effondrement. 15 millions de naissances en Chine en 2018, c'est 2 millions de bébés en moins que l'année précédente. À ce rythme-là, la population de l'empire du 1,5 milliard pourrait commencer à décroître à partir de 2027. Le baby-boom tant attendu n'est donc pas venu. Le relâchement du contrôle des naissances en 2013 et la fin officielle de la politique de l'enfant unique, 2 ans plus tard, n'y ont rien changé. Le coût de la vie dans les grandes villes et surtout de l'éducation dissuade aujourd'hui de nombreux jeunes couples de sortir du modèle de la famille ternaire. Un papa, une maman et un enfant qui a été imposé à 3 générations de Chinois. Une courbe démographique qui a le sourire à l'envers, une pyramide des âges qui pourrait bientôt avoir une forme de champignon comme les voisins japonais et sud-coréens. Si rien n'est fait, le vieillissement rapide de la population chinoise risque d'avoir un impact négatif sur la croissance de la deuxième économie du monde.
La sénatrice démocrate de la Californie, Kamala Harris, a annoncé qu'elle se présenterait comme candidate à la présidence des États-Unis lors des prochaines élections. La sénatrice critique du président Donald Trump serait une étoile montante au sein du parti. Âgée de 54 ans, elle a fait cette annonce lors d'une interview sur la chaîne de télévision américaine ABC.
We must be smart. We must understand the power that we have, the strength that we have. That is about military power. It is about diplomatic power. It is about the power that we have in terms of what has been, until recently, our moral authority.
La sénatrice Harris, fille d'immigrés de la Jamaïque et de l'Inde, est la 8e personne à se joindre à la course à l'investiture du Parti démocrate. Un mot de sport avec le gardien de but des Socceroos, Matt Ryan, qui a sauvé 2 pénalités lors d'une victoire 4-2 contre l'Ouzbékistan. L'Australie s'est qualifiée en quart de finale donc de la Coupe d'Asie. On écoute Matt Ryan sur Fox Sports.
I hadn't saved a penalty for the national team, which was something that was bugging me, but you know, to get 2 in that moment just there, I'm really happy and yeah, obviously for a goalkeeper that's the pinnacle.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie, Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 37, Melbourne 31, Hobart 30, Canberra 37, Sydney 30, Brisbane 32, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi. En Australie, le Labour s'est engagé à dépenser $1 milliard s'il gagne les élections fédérales pour la production d'hydrogène propre à partir d'énergies renouvelables. Le Brexit et la première ministre britannique Theresa May a déclaré hier qu'elle tenterait de trouver une solution en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'Union européenne. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
sbs.com.au